Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous commençons notre émission en présentant à tous nos meilleurs vœux pour l'année 2019, ainsi que pour les grandes fêtes que l'Église célèbre ces jours-ci. La Nativité du Christ, fêtée par les orthodoxes le 25 décembre ou le 7 janvier, en fonction du calendrier suivi, et celle du baptême du Christ, respectivement les 6 ou 19 janvier. Pour parler du sens de ces fêtes, nous recevons le Père Siméon, igoumène du monastère Saint-Silouane à Loquenay, près du Mans. Père Siméon, pour parler de ces fêtes qui constituent un ensemble, prenons les choses au début, si vous voulez.
Oui, je pense que c'est très important de se souvenir qu'est-ce qui s'est passé, et on va pas s'attarder longtemps sur ce sujet, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Genèse, au moment de la création. Adam et Ève ont été très vite tentés par le démon, et qui leur a fait croire qu'ils pouvaient devenir des égaux de Dieu. Et ils sont tombés dans le panneau, comme on dit vulgairement, et ils ont cru le démon, et ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés. Et Dieu les a mis en dehors du paradis, non pas pour les punir, comme on pourrait le penser, mais pour leur apprendre quelque chose. Et cet apprentissage va commencer au moment où, par décision, on va dire, synodale de la Sainte Trinité, on va envoyer le Christ sur la terre. Dieu va se montrer non pas sous la forme de l'orgueil, mais sous la forme de l'humilité, qui est en quelque sorte le médicament de l'orgueil. Et les deux fêtes dont nous allons parler, que ce soit la Nativité du Christ ou bien le baptême du Christ, sont toutes les deux de la même coloration, c'est-à-dire l'humilité de Dieu. C'est très frappant de voir que dans l'évangile de saint Matthieu, par exemple, juste avant la nativité, il rappelle la généalogie du Christ. Et quand on regarde cette généalogie, il y a des gens remarquables là-dedans, mais il y a aussi plein de truands. Donc le Christ s'insère dans cette généalogie déjà avec humilité. Il accepte de faire partie de toute une descendance qui n'est pas si brillante que ça. Et la nativité elle-même, lorsqu'elle se produit, elle nous est décrite par les évangélistes, notamment par Matthieu, comme un événement absolument invraisemblable. Comment un Dieu peut-il s'abaisser à ce point de venir naître dans un pays où on est en plein recensement, c'est le grand bazar, il n'y a pas de place nulle part pour se loger, les hôtels sont pleins, et Marie, l'épouse de Joseph, va accoucher du Christ. C'est le terme qui est arrivé. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une grotte. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Bethléem, mais je vous assure que quand on est allé une fois seulement dans cette grotte, on se dit, mais vraiment, c'était pas du 5 étoiles. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est joli. Ils ont mis des décors, des tapisseries, des choses. Mais c'est une grotte de pierre, tout simplement. Et le Christ a été posé dans un tout petit creux de rocher, avec un peu de paille pour lui tenir un tout petit peu chaud. Et puis là, il y avait quelques animaux qui traînaient, que les bergers avaient mis à l'abri. Et voilà comment Dieu se manifeste aux hommes. Sous la forme d'un petit enfant, déjà. Et il n'y a rien de plus fragile qu'un petit enfant. Et non seulement un petit enfant, mais un petit enfant qui naît dans des conditions absolument de grande pauvreté. Donc là, on est en plein dans l'humilité. Comment on peut pas même l'imaginer avec notre intellect. Comment on peut penser que Dieu puisse s'abaisser jusqu'à ce point? Saint Paul nous en parlera plus tard. Il appellera ça la kénose du Christ, qui va s'achever à la croix, évidemment, mais qui commence cette kénose par cette nativité qui est invraisemblable. Qui assiste à cette nativité? Quelques animaux, quelques bergers qui sont là, qui comprennent pas, mais ils entendent quand même des anges qui annoncent quelque chose qui est important, que les hommes oublient souvent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance aux hommes de bonne volonté. Donc les anges quand même signalent qu'il y a quelque chose de particulier qui se produit, même au travers d'un événement d'une banalité invraisemblable. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire donc dans tous les cieux, parce que Dieu vient se manifester aux hommes pour les sauver, en leur montrant que pour être debout dans la lumière de Dieu, il faut d'abord s'humilier. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors après, il y aura d'autres bergers qui vont venir par curiosité. Ça va se dire très vite. On est en Orient. Les gens se parlent très vite. On arrive, tout le monde vient voir qu'est-ce qui se passe. Cette femme qui vient d'accoucher dans un contexte invraisemblable. Et elle a probablement accouché debout selon la tradition qui se faisait à l'époque. Les femmes n'étaient pas couchées. Elles étaient debout pour accoucher, ce qui était épouvantable. Il n'y avait personne pour l'aider. Hein. Elle s'est débrouillée toute seule. Et voilà, le Christ naît au milieu de tout ça, dans une simplicité que l'on, comme je le disais tout à l'heure, on a du mal avec notre intellect à comprendre comment Dieu a pu accepter de s'humilier à ce point dans le but de nous montrer qu'il nous aimait de toute façon, même si nous étions tombés dans l'orgueil au travers d'Adam. Malgré cela, nous sommes aimés de Dieu. Et ça nous rapproche à une très belle parabole qui est la parabole du fils prodigue, où le père attend le fils prodigue qui a mené une vie de patachon, autrement dit qui a fait ce que nous faisons presque tous, et qui revient vers le père, et le père l'attend. Et qu'est-ce que fait le père? Aucun reproche. Il l'accueille avec humilité, avec amour. Il ouvre ses bras et il va lui offrir le festin. Ce qui va d'ailleurs rendre jaloux le frère qui est plus sage, soi-disant. Mais, vous voyez, Dieu, par son amour, veut aller jusqu'au bout, et ça le pousse à poser un acte d'humilité que Dieu seul peut poser. La qualité de cette humilité-là, elle est divine. Père Sophronie, le fils spirituel de Saint-Silouane, disait « Allez puiser dans la grande humilité du Christ ». Il appelait ça la grande humilité du Christ, parce que ce n'est pas comparable à la nôtre. Même si nous essayons d'être humbles à certains moments, nous ne pouvons qu'essayer d'aller puiser dans la grande humilité du Christ pour pouvoir essayer de vivre humblement, ce qui n'est pas notre nature. Notre nature déchue est touchée par l'orgueil, et ce qui crée tous les problèmes que nous connaissons dans le monde entier et depuis la création.
Donc cette intervention de Dieu dans l'histoire, dans sa propre création, hein, Dieu intervient dans sa propre création, parce qu'il voit, il le savait d'ailleurs, qu'elle est partie dans un sens qui ne va pas lui accorder le salut. Et il a cette manière d'intervenir pour donner la possibilité à sa création d'être sauvée. Hein.
Exactement, exactement. C'est-à-dire que le projet d'origine de Dieu, c'est par amour créer l'homme, au sens large du terme. Et ça ne marche pas, parce que l'homme déraille, mais Dieu, j'allais dire, est têtu, et il veut absolument offrir son amour à l'homme, donc il va trouver le moyen, il va envoyer son fils, et il va montrer que le salut vient par Dieu qui s'humilie. Et le Christ va s'humilier jusqu'à la croix, et la mort sur la croix, comme nous dit saint Paul. Donc le mouvement est un mouvement d'amour, mais qui va se concrétiser par un mouvement d'humilité d'abord. Et tout au long de la vie du Christ, on voit qu'il va vivre humblement. Il n'aura pas de maison, il va manger chez les uns, chez les autres, il va manger chez tout le monde, y compris chez les gens qui ne sont pas recommandables, on s'exprimerait ainsi aujourd'hui. Il va essayer de comprendre ceux qui souffrent, il va essayer de guérir ceux qui ont des maladies, il va se mettre à leur niveau, autrement dit. Il va laisser venir les petits-enfants à côté de moi, dira-t-il aux apôtres. Il n'a peur de rien, il peut s'humilier, il vit dans une sobriété totale. Ce n'est pas le roi des rois. On croirait que c'est le roi des rois qui vient nous sauver. C'est effectivement, symboliquement, on peut dire le roi des rois, effectivement, mais c'est le roi des rois qui s'abaisse. Il ne vient pas avec ses pierreries et ses dorures, il vient avec simplement un corps d'homme et dans des conditions qui sont véritablement des conditions de misère.
Et avec un très grand contraste entre ce qui se passe sur terre, avec l'humilité que vous venez, les conditions humbles que vous venez de décrire, et ce qui se passe au ciel, où les anges chantent, la doxologie, c'est ça.
Il y a à la fois la joie qui s'exprime au ciel dans le cœur des anges, qui chantent la grande doxologie, parce qu'ils se réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'amour de Dieu revient à l'homme, que l'homme va pouvoir bénéficier de nouveau de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui fait la joie de tous les anges. C'est pour ça qu'ils chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ».
Un extrait maintenant de la liturgie de Noël, c'est le Kondakion de la fête chanté par la chanteuse serbe Divna. Le Kondakion de Noël, chanté par la chanteuse serbe Divna, qui chantait en grec ici, dans la tradition byzantine. Nous revenons à notre entretien avec le père Siméon sur le sens de la nativité et du baptême du Christ, de fait lié. Vous disiez, père, tout ceci est lié directement à l'humilité de Dieu. C'est le thème central. Alors, on a vu les conditions de la nativité et on va aller vers le baptême qui se passe beaucoup plus tard dans la vie du Christ.
Bien sûr.
Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Pourquoi un baptême plus tard? Pourquoi Dieu lui-même a besoin de se faire baptiser?
Voilà.
Comment cela s'inscrit dans cette économie de Dieu, en fait, qui est le projet de Dieu pour sauver l'homme?
Oui. En fait, là, d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, entre parenthèses, c'est que, autrefois, on ne fêtait pas Noël. En fait, c'était le baptême du Christ. La fête de Noël est venue plus tard dans le calendrier liturgique. Et dans la tradition arménienne, les deux fêtes se font le même jour.
Tout à fait, on l'a fait pour des questions dogmatiques,
voilà.
À un moment où il y avait des problèmes.
Voilà.
Et il faut dire aussi que la fête de l'Épiphanie, ou Théophanie, comme on dit, est très importante, parce que justement, là, il y a une manifestation trinitaire.
Tout à fait. Et le texte de saint Matthieu est extrêmement intéressant, je trouve, parce que c'est un récit simple. Matthieu s'exprime très simplement. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, qui est son cousin, Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant ». Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est la petite phrase « afin que nous accomplissions tout ce qui est juste ». Car la justice de Dieu n'est pas la même que la justice de l'homme. La justice de Dieu, c'est justement la miséricorde. La justice de Dieu, c'est l'amour de l'homme jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, on revient à notre thème de l'humilité, le Christ va vouloir s'humilier, se laisser baptiser par Jean, alors comme vous le disiez tout à l'heure très justement, il n'en a pas besoin, il n'a fait aucun péché. Le baptême de Jean était c'est pas le baptême que nous connaissons aujourd'hui, sacramental, mais c'était une préfiguration de ce baptême-là, qui était un symbole, qui existe toujours dans la tradition juive d'ailleurs, de préparation à une entrée dans une vie spirituelle. Et il demandait donc aux gens de se plonger dans le Jourdain, et quand il voit arriver Jésus, il ne comprend pas, parce qu'il sait qu'il est son cousin, mais il sait qu'il est aussi le Fils de Dieu. Il le sait très bien. Donc il ne veut pas, il refuse de baptiser le Christ. Et le Christ l'oblige. On lui dit non, il faut accomplir toute justice. Et cette justice s'appelle la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. L'homme a créé sa propre misère par orgueil. Il est devenu malheureux à cause de l'orgueil. Et Dieu le sait, mais Dieu a un cœur, et son cœur aime l'homme, et il aime l'homme même s'il est pécheur. Et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice humaine, C'est une justice qui est à l'envers, comme beaucoup de choses dans l'Évangile, comme les béatitudes. C'est quelque chose de complètement fou, les béatitudes. Mais ça, c'est la même chose. Pourquoi parler de justice alors que ça ne paraît pas du tout juste? N'importe quel enfant qui lit ce texte-là dit « Mais non, ce n'est pas juste, il n'avait pas besoin d'être baptisé. » Alors, non, Jésus veut être baptisé par humilité pour montrer qu'il vient pour sauver les hommes en prenant sur lui leurs péchés. Lui ne tombera pas dans le péché, mais il prend sur lui leurs péchés et déjà, à l'avance, il va se plonger dans les eaux pour purifier le péché de l'homme et en même temps purifier les eaux du Jourdain qui sont souillées par le péché de l'homme. Donc il y a une double purification.
Et il faut rappeler aussi que pour cette fête, il y a cette tradition de bénir l'ensemble de la création, je dirais, avec le bénit. Hein,
tout
ce
à
qui
fait.
Rappelle justement la dimension cosmique de l'événement.
Tout à fait, parce que, par exemple, dans un monastère, nous bénissons les eaux, enfin le grand bac d'eau comme d'habitude, comme partout, nous bénissons l'église, et puis ensuite on fait tout le tour du monastère, on bénit toutes les cellules, tous les champs, tous les endroits du monastère sont bénis. Il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas touché par une goutte d'eau bénite, parce que c'est toute la création qui revit dans la justice de Dieu qui est miséricorde. Et cette miséricorde, elle va se vivre là aussi dans l'humilité.
Écoutez, maintenant nous allons de nouveau dans l'église et cette fois-ci, ça va être mot Athos au monastère de Vatopedi. C'est un extrait de la liturgie de la Théophanie. Après cet extrait de la liturgie de la Théophanie chantée par les moines de Vatopedi au Matos, nous revenons à notre entretien avec le père Siméon, igoumène du monastère Saint-Silouane, pour parler justement du sens de ces fêtes. Maintenant, vous avez donné les fondements du baptême du Christ. Alors, deux éléments très importants. D'abord, l'aspect trinitaire, puisque l'Évangile nous dit que les trois personnes se manifestent.
Tout à fait. Pendant. Tout à fait.
Et puis, évidemment, je dirais les dimensions anthropologiques pour chacun de nous, puisque nous recevons tous le baptême. Enfin, l'entrée dans l'Église se fait par le baptême. Alors, quel est le lien entre ce baptême-là, le baptême du Christ, et le nôtre?
Je vais revenir sur l'aspect trinitaire, déjà, qui est très important, car c'est la première fois que la Trinité se manifeste. Donc, il y a le Christ qui est présent en tant que Fils de Dieu. Il y a, au moment où il est baptisé, le ciel qui s'ouvre et la colombe qui descend sur le Christ et qui est l'Esprit Saint qui vient sur lui et la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », etc., etc. Donc, les trois personnes sont manifestées à ce moment-là comme étant un seul Dieu en trois personnes. Évidemment, ça n'apparaîtra pas d'une façon très claire tout de suite. Ce sont nos théologiens, les pères qui vont réfléchir sur cette manifestation et qui vont se dire « Mais oui, c'est la première fois que la Sainte Trinité s'est manifestée ». Bon, on ne parle pas de l'histoire d'Abraham, des trois anges, parce que là, c'est une préfiguration de la venue de la Trinité. Là, ce n'est pas une préfiguration, c'est une réalisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons être baptisés, et nous allons être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons être baptisés de la même manière que tous ces gens qui venaient vers Jean pour être baptisés, mais avec quelque chose de plus, c'est que comme le Christ a purifié les eaux du Jourdain, quand nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans une eau qui nous purifie, qui est une eau pure, parce qu'elle a été purifiée par le Christ. Donc, c'est pour cela que, lors de la cérémonie d'un baptême, le prêtre ou l'évêque va dire des prières spéciales sur l'eau qui va être bénie d'abord. On va y verser de l'huile, enfin, il y a tout un rituel au moment du baptême où on va bien comprendre que l'eau doit être pure, donc on va demander des prières, on va demander la venue du Saint-Esprit dans l'eau. Et ça rappelle, effectivement, le baptême du Christ. Et nous, nous allons être plongés dans l'eau, mais cette fois, à l'inverse du Christ, parce que nous en avons vraiment besoin. Lui n'en avait pas besoin en tant que tel, mais nous, nous en avons besoin parce que nous sommes marqués par notre nature déchue et nous avons besoin d'être lavés de cette nature déchue. Et dès que l'enfant ou l'adulte a été baptisé, je dirais l'affaire est réglée. Tu as été lavé, tu as été purifié, dit le prêtre, en lui remettant son vêtement blanc. Et à ce moment-là, tu appartiens au Christ. Et on peut dire que l'eau du Jourdain est en quelque sorte la matière, si on peut parler ainsi, la matière qui va nous servir d'élément unificateur entre cette eau du Jourdain qui est purifiée par le Christ et cette eau pure que nous, nous utilisons pour notre propre baptême. Elle est pure à cause du Christ. Et à ce moment-là, nous sommes incorporés à la personne du Christ. Nous commençons à être divinisés. Donc c'est une grande histoire qui commence. C'est une invitation de Dieu à être divinisé, selon notre théologie à nous. Et ça, c'est évidemment, ça, c'est le sujet d'une autre émission, mais c'est extrêmement important, parce que les pères nous l'ont dit, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est bien le but. Eh bien, ça s'est fait dans l'humilité de Dieu.
Merci beaucoup, mon père, de donner cet éclairage profondément théologique et pastoral. Alors, avant de terminer, une annonce pour dire que, comme tous les ans, France Culture retransmettra demain, donc 7 janvier, de 11h à midi, l'office de Noël depuis la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de la rue Daru à Paris. Et ainsi prend fin donc cette émission qui était consacrée à la Nativité au baptême du Christ. Cette émission est sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Alexis Christostalis, chargé de réalisation Anne Pérez. Prise de son Catherine Déretté. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.